Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Leonardo DiCaprio. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Leonardo DiCaprio. On alterne dans cette chronique parfois des réalisateurs ou des acteurs plus anciens et des acteurs ou des réalisateurs plus récents, plus contemporains. Donc Leonardo DiCaprio, c'est une carrière assez exceptionnelle qui ne connaît pas de baisse. En fait, tout au long de ces années, il a réussi à être présent en permanence. Et quand on dit présent en permanence, ça fait une trentaine d'années qu'il est présent dans un cinéma avec des rôles importants. Alors, un mot sur lui en tant qu'individu, je dirais, même si je ne compte pas à chaque fois y passer longtemps. Donc, il est né en 1974. Il a toujours eu des idéaux à défendre. C'est à relever. D'autres ne les ont pas. Il est démocrate, donc il défend, je dirais, le progrès dans la société américaine. Et il défend aussi l'écologie. Donc, il s'est engagé dans beaucoup d'actions en faveur de l'écologie. Bon, ceci précisé, venons-en à sa filmographie. Il a tourné plusieurs films avec le même réalisateur et c'est ce qu'on évoquera d'abord. On fait référence au premier rôle important de Leonardo DiCaprio, c'est le film Gilbert Grape en 1994 de Lasse Hallström. Il a un rôle qui est, je dirais parfois, casse-gueule, celui d'un handicapé. Et il joue cet handicapé avec un talent qui fait qu'il est immédiatement reconnu comme un acteur excellent. Il aura ensuite donc des réalisateurs fétiches avec lesquels il joue parfois 5, 6 films. Alors le record est détenu par Martin Scorsese avec lequel il joue Gang of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island, Le Loup de Wall Street et Killer of the Flower Moon, qui est sorti en 2023. Donc les rapports entre Scorsese et DiCaprio sont effectivement bons, on ne peut pas dire le contraire. Cela s'est passé aussi avec Robert De Niro, pour lequel il a connu Scorsese un certain nombre de films en couple, l'acteur De Niro et le réalisateur Scorsese. Et parfois, les deux acteurs se retrouvent, comme dans Killer of the Flower Moon, on a à la fois De Niro et Leonardo DiCaprio. Alors le premier de ces films, c'est Gang of New York, où on voit l'affrontement entre deux bandes rivales et même deux groupes ethniques rivaux. Ils vont s'opposer, se battre, le père de Leonardo DiCaprio est tué, donc il veut se venger, et le temps passe et il réussira à se venger. Aviator, là c'est la vie d'un homme célèbre qui a voulu tourner des films, qui a dépensé beaucoup d'argent pour arriver à faire des œuvres d'art, selon lui, qui étaient importantes, et il y a réussi. On a Les Infiltrés ensuite, en 2006, qui est un remake d'un film asiatique, et qui oppose, en quelque sorte, Matt Damon à Leonardo DiCaprio. C'est-à-dire que chacun est dans un camp, mais de manière à être un traître. C'est-à-dire que Matt Damon d'un côté, Leonardo DiCaprio de l'autre, essaie de se faire passer l'un pour un policier, l'autre pour un gangster. C'est Leonardo DiCaprio qui travaille pour la police et qui se fait passer pour un gangster auprès de Jack Nicholson. Jack Nicholson, toujours génial comme d'habitude. Et Matt Damon, lui, qui dépend de Nicholson et qui va intégrer la police. Avec des revirements de situation, en particulier le revirement final, qui est assez impressionnant. Shutter Island. Alors là, on est sur une île où on ne sait pas trop qui est fou ou qui n'est pas fou, puisqu'il y a un asile psychiatrique et on voit le couple de policiers dont Leonardo DiCaprio est un des piliers et on ne sait pas trop au fil du temps si DiCaprio rêve ou c'est lui-même aliéné dans cet asile. Le Loup de Wall Street. Là, c'est un film qui va durer, alors souvent chez Scorsese, ça dure 3h, 3h30, qui va être assez long, et on voit la montée en puissance de quelqu'un qui va monter une société pour vendre des actions, et qui va devenir totalement hystérique. Donc un rôle assez exceptionnel qui vraiment marque l'histoire de Leonardo DiCaprio en tant qu'acteur. Et le dernier film avec Martin Scorsese comme réalisateur, c'est Killer of the Flower Moon, où on voit un groupe d'Indiens qui bénéficient de certaines terres sur lesquelles se trouve du pétrole. Et donc, le personnage joué par De Niro, entre guillemets le méchant, va essayer de capter cet argent. Et Leonardo DiCaprio va progressivement s'intéresser plus attentivement à la querelle et à la position des Indiens. Alors, nous avons plusieurs films qui sont particulièrement importants. Et venons-en tout de suite à celui qui a rendu archi-célèbre Leonardo DiCaprio, c'est Titanic.
Once more, you open
Quentin Tarantino, deux films, Django Unchained et Once Upon a Time in Hollywood. Donc, dans Django Unchained, il fait un rôle qu'on peut qualifier de second rôle, qui est un propriétaire d'esclaves et qui fait s'affronter ses esclaves dans des combats, ce qui se passait à l'époque, notamment avec des mandingues. Donc, on avait un livre qui s'appelait, notamment, mais ce n'est pas adapté de celui-là, qui s'appelait Mandingo. Donc, c'est la violence de cette présence, je dirais, du Sud, qui va être véritablement visée par le réalisateur. Et on a le personnage positif, c'est Christopher Waltz. Alors, Christopher Waltz, il avait joué dans Inglourious Basterds et il avait un prix d'interprétation pour cela. Donc, il est devenu connu au plan mondial, alors même qu'il était acteur, ça arrive souvent depuis une trentaine d'années. Ça s'est appliqué notamment à Bruce Dern ou à Robert Duvall, à d'autres acteurs comme cela, dont on ne parlait pas de manière suffisante et qui arrivent à la célébrité assez tard. Donc, dans Django Unchained, Christopher Waltz va libérer un esclave et ils vont partir ensemble parce qu'il y a des frères qui ont une prime sur leur tête, Dead or Alive, et donc, comme il ne le connaît pas, il va être accompagné de ce personnage pour les trouver. Il y a une scène culte, je dirais, extrêmement amusante et critique. On voit apparaître le Ku Klux Klan. Et le Ku Klux Klan, il y a une scène dans laquelle le personnage dit « Mais attendez, j'y vois rien. Comment vous avez mis ces cagoules ? Les trous ne correspondent pas. » Donc une longue scène qui est une caricature amusante qui ridiculise donc le Ku Klux Klan. Pour Once Upon a Time in Hollywood, il fait un acteur et il a Brad Pitt qui sert de cascadeur. Donc ce sont les rapports entre eux et la vie à Hollywood à cette époque-là, avec des personnages réels dont le sort va être transformé. De la même manière que dans Inglourious Basterds, il faisait tuer Hitler, là, Sharon Tate n'est pas assassiné. On a donc, avec Quentin Tarantino, un film qui le met en vedette, le second, et un film où il n'est qu'un second rôle. Alors après, il y a Baz Luhrmann. Alors il va faire deux films avec lui. Le premier étant, à mon avis, un film culte, c'est Roméo et Juliette en 1996. Il s'agit d'une adaptation, bien sûr, de la pièce de théâtre de Shakespeare. Et elle est contemporaine, elle se passe aujourd'hui. Et les personnages, par exemple, dans le Roméo Juliette initial, ils se menacent d'une épée régulièrement. Et là, les épées sont remplacées par des revolvers. Donc, ils vont se battre en disant « Voilà, peur, tu vas avoir peur de mon épée », alors qu'en réalité, ils utilisent un revolver. Donc, comme souvent, Baz Luhrmann, qui avait fait Moulin Rouge, a un style extrêmement particulier. Il fera ensuite, mais ce sera moins réussi, Gatsby le Magnifique en 2013, toujours avec DiCaprio. Il y avait eu une version au début des années 70 avec Robert Redford, qui faisait Gatsby, qui est peut-être plus réussie que celle-là, qui reste un petit peu académique, ce qui est étonnant pour Baz Luhrmann, par rapport à son style. Disons que son style est plus classique par rapport au film qu'il fait antérieurement. Donc, des réalisateurs où on a six films, deux films à Tarantino, un film à Luhrmann, et on a par la suite un certain nombre d'œuvres qui sont marquantes. Bien évidemment, ce qui est marquant, on a vu la musique tout à l'heure, c'est Titanic. Il va connaître la célébrité, en sachant quand même que pour Titanic, il a 23 ans. Donc il a commencé très tôt, Gilbert Grape c'était 19 ans, et Titanic c'est 23 ans. Donc Titanic, vous connaissez, je n'ai pas insisté sur le scénario et la chute du film, et cet amour entre les deux personnages de classe tout à fait différente. Alors nous allons écouter, j'en parlais tout à l'heure, Roméo et Juliette, la musique du film, que voici. Thank you. Dans les années 2000, on va voir Leonardo DiCaprio véritablement éclater. Je vais citer des films pour lesquels il n'a tourné qu'avec un seul réalisateur, mais pas des moindres. Il a tourné avec Spielberg, Eastwood, Christopher Nolan, Sam Mendes, Ridley Scott, Iñárritu, Woody Allen. Donc, des grands metteurs en scène et des films qui sont généralement très réussis. Pour le film de Spielberg, Arrête-moi si tu peux. Il s'agit d'un escroc qui sera poursuivi par Tom Hanks. Et donc le sujet, c'est cette course-poursuite entre les deux personnages. Pour Clint Eastwood, c'est J. Edgar. Alors le personnage qui est visé, c'est J. Edgar Hoover, qui a dirigé le FBI pendant une quarantaine d'années. Il a été mis en place assez jeune à ce poste et il va durer pendant plusieurs décennies. Et il était anticommuniste, il était homophobe, et en même temps, il était peut-être lui-même homo. C'est un personnage extrêmement ambigu, qui avait des dossiers sur tout le monde, que ce soit les Kennedy ou autres, ce qui fait qu'aucun président n'osait le virer, par peur de voir ses dossiers sortir. Donc très bon film, J. Edgar en 2011. Pour Woody Allen, c'est un film qui s'appelle Celebrity de 1998, qui n'est pas vraiment un des meilleurs films de Woody Allen. Pour Christopher Nolan, c'est Inception. Alors Inception, qui est de 2010, vous l'avez peut-être vu, c'est ce film où on rentre dans l'esprit de certaines personnes et on a une sorte de tiroir qui s'ouvre, un tiroir dans le tiroir, etc. Et une des clés du film, pour savoir si on est dans la réalité ou la fiction, c'est une toupie. C'est-à-dire que la toupie tourne, si elle tombe, c'est une chose, si elle reste debout, c'est une autre. Donc le film est parfois difficile à suivre. Pour Ridley Scott, c'est Mensonge d'État, avec un personnage qui va travailler avec un chef de service, si je puis dire, qui va le coacher, c'est-à-dire que lui est sur le terrain. Et il a ce personnage qui est joué par Russell Crowe, qui va être lui au téléphone et indiquer les actions. Donc, vraiment un certain nombre de films importants. Je vais en citer d'autres, mais on écoute d'abord la musique de Inception. donc un ou deux films avec certains réalisateurs, six avec d'autres et un seul avec certains. Donc il y a Le Revenant de Iñárritu en 2015. Ça, c'est un remake d'un film des années 70 où on voit un personnage qui a été blessé par un ours et le responsable de l'équipe s'en va. Hein, c'est une époque là aussi western. Il guide un bateau et le personnage dans la première version, c'était John Huston et celui qui était attaqué par l'ours, c'était Richard Harris. Là donc, c'est DiCaprio qui va réussir à se relever. Il a été abandonné par deux personnes qui étaient là pour attendre sa mort ou pour l'aider. Et en fait, ils vont partir avant qu'il soit mort. Donc, la vengeance, c'est cette remontée de DiCaprio vers le navire qui est traîné sur un certain nombre de kilomètres pour arriver à l'eau. Donc, nous avons, au-delà de Iñárritu, des films un petit peu uniques. Je parlerai d'un dernier tout à l'heure qui est à mettre de côté pour son originalité. Pour le moment, écoutons la musique de Killer of the Flower Moon. Ce film original, c'est un film de 1998 de Randall Wallace qui s'appelle « L'homme au masque de fer ». Alors, « L'homme au masque de fer », vous l'avez compris, c'est la fameuse histoire de Louis XIV qui aurait eu un frère jumeau et le frère jumeau qui aurait été caché, emprisonné avec ce masque de fer pour qu'on ne le reconnaisse pas. Il y a les trois mousquetaires qui sont présents, quatre bien sûr, et on a en particulier un acteur qu'il faut retenir. Il joue le personnage de Porthos. Alors Porthos, c'est celui qui est le plus vivant, un petit peu vulgaire, qui mange, qui boit. Et celui qui joue ce rôle, c'est Gérard Depardieu. Alors ça lui va très bien parce qu'en plus, quelquefois, il pète. Donc on dit que Depardieu lui-même, sur les plateaux, est habitué à ça, avec d'autres éléments dont on a parlé ces derniers mois. Alors la curiosité, donc, c'est de voir ce personnage de DiCaprio qui est toujours ici assez jeune, hein, puisqu'il est à 24 ans, qui interprète ce double rôle de Louis XIV et de son frère jumeau. Donc voilà pour la filmographie et pour le fait qu'on isole toujours quelques films de tel ou tel acteur ou de telle ou telle actrice. Pour DiCaprio, on a des films qui sont de divers types, de très différents types, des comédies, des films d'action, des films psychologiques, donc beaucoup, beaucoup d'originalité. Mais qu'est-ce qui a marqué le monde entier? C'est bien sûr Titanic, qui est un de ces films qui a eu le plus de succès. Alors quittons-nous sur un problème sémantique. Quand vous regardez la version anglaise, on a, comme pour la version française, les deux personnages à l'avant, à la poupe, et qui vont dire qu'ils sont le maître du monde. Alors en réalité, sur la version américaine, c'est « The King of the World », et la version française a été traduite « Le maître du monde ». Donc les deux sont justes, le roi du monde et le maître du monde, sauf qu'en anglais, c'est le roi du monde, « King of the World », et en français, c'est le maître du monde. L'acteur DiCaprio a une carrière qui est déjà assez exceptionnelle. Il arrive à la cinquantaine et il n'y a pas de raison que cette carrière ne continue pas. En tout cas, ce qu'on peut souhaiter, un acteur original et véritablement humain, je dirais, dans ses choix et dans sa qualité comme être humain, tout simplement, comme homme, être humain. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Léo Touroult. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à tous et à toutes.